Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Deuxième volet de notre série consacrée à ces territoires désunis entre séparation et réunification des territoires désunis. C'est notre sujet cette semaine. Nous parlions hier de l'Allemagne, de cette frontière fantôme toujours présente entre l'ex-RDA et l'ex-RFA malgré la réunification, avant de parler de la séparation entre la Corée du Nord et celle du Sud. Et puis enfin jeudi, la frontière irlandaise. Ce matin, direction les Balkans où il y a 20 ans tout juste tombait l'ancien président serbe Slobodan Milosevic.
Avoir 20 ans à Belgrade et vivre ça. La démocratie, la liberté retrouvée et cet après-midi le repos d'une foule qui s'est insurgée hier. Pour eux, le dictateur Milosevic est déjà mort.
Nous sommes contents parce que finalement, nous avons réussi à renverser le régime que nous n'avons pas voulu depuis longtemps.
Super. Alors, c'est super, il n'y a pas mieux, nous avons renversé le pire. Nous attendons le meilleur. Nous espérons que ce sera de mieux en mieux.
Milosevic doit décider d'accepter la volonté du peuple de ce pays et que demain, on commence de résoudre les grands problèmes du pays et du peuple serbe.
C'était il y a tout juste 20 ans, le 5 octobre 2000. Après 11 années au pouvoir, l'ancien président serbe Slobodan Milosevic, à la tête d'une éphémère République fédérale de Yougoslavie, était renversé en 2 semaines après avoir tenté de truquer l'élection présidentielle lors d'un mouvement populaire baptisé plus tard la Révolution des Bulldozers, en référence à ce conducteur de bulldozers qui s'en prit à la radio-télévision de Serbie, symbole du pouvoir de Milosevic. Un an après les bombardements de l'OTAN et alors que la Serbie venait de perdre une partie de son territoire, le Kosovo, les Serbes semblaient enfin regarder vers l'avenir. Et pourtant, 20 ans plus tard, les plaies ne semblent toujours pas refermées, ni le conflit totalement résolu entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo. En effet, ni les tentatives de médiation de l'Union européenne, ni les rapprochements économiques accompagnés par les États-Unis ne semblent venir à bout des vieux conflits sur ce territoire où les différentes communautés, les Serbes et les Albanais, restent séparés. Alors pourquoi les frontières sont-elles encore si sensibles? Quels sont les moteurs de ces lignes de fracture sociale, religieuse, politique qui continuent de diviser les populations? Et quelles solutions politiques dans la région alors que les perspectives d'intégration à l'Union européenne semblent plus éloignées que jamais? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin, d'abord Loïc Trégorès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris. Vous signez un ouvrage consacré au football, le football dans le chaos yougoslave aux éditions Non-Lieu. Vous êtes intéressé à ce football comme espace de revendication politique et identitaire. On a eu l'occasion d'en parler ici à ce micro. Avec nous également Jean-Arnaud de Reims, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes historien, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans et co-auteur, je l'indique avec Laurent Gélan qu'on a reçu il y a peu à ce micro, de « Là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins, c'était à la découverte ». D'abord, je voudrais qu'on commence, on va commencer avec vous Jean-Arnaud de Reims, sur cet événement que j'évoquais il y a donc 20 ans, 5 octobre 2020, lorsque on a analysé les choses, on a dit oui, tout cela est assez essentiellement le résultat d'une révolte populaire. Et c'est assez largement le cas, sachant qu'il y avait aussi derrière une administration américaine qui soutenait de façon ostentatoire la disqualification, en tout cas la mise à la marge de Milosevic. On a appris il y a peu de temps, grâce à la déclassification d'un certain nombre de documents de l'administration américaine, que Bill Clinton à l'époque et un certain Vladimir Poutine, tout juste, tout fraîchement arrivé au Kremlin, avaient discuté justement de l'hypothèse d'un départ de Milosevic. Et ce que disent les verbatims de la conversation qu'on connaît maintenant, c'est que visiblement Vladimir Poutine avait l'air d'être assez enclin à l'idée justement d'un départ de Milosevic. Alors je ne sais pas jusqu'où il faut parler d'ingérence, mais il semble qu'il ait été favorable à l'idée d'un départ. Il a même dit, lorsqu'on regarde les verbatims, je vais lui en parler, on va regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la chose? Est-ce que ça veut dire que 20 ans plus tard, il faut regarder d'un nouvel œil ce mouvement populaire et se dire que peut-être en réalité, à l'époque, Moscou avait joué un rôle qu'on n'imaginait pas?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dirais tout au plus que Poutine a donné son feu vert, disons, dit qu'il ne ferait pas un casus belli des pressions américaines. Il faut remettre les choses dans le contexte.
Il a dit exactement, nous allons essayer de travailler dans ce sens-là avec lui. Dans le
oui,
sens
enfin,
d'un départ.
De le convaincre de partir gentiment. Et de fait, Milosevic a accepté de partir. Mmh. Il n'a pas tenté une résistance, un baroud d'honneur. Donc oui, de ce point de vue-là, probablement, cette médiation russe a existé, a été plutôt utile, plutôt efficace. Il faut remettre les choses dans le contexte. Poutine venait d'arriver au pouvoir, et Poutine venait d'arriver au pouvoir après un énorme traumatisme subi par la Russie, à savoir les bombardements du printemps 1999 par l'OTAN, au sujet desquels Moscou n'avait même pas été informé. Alors, on savait bien sûr que les bombardements étaient dans les tuyaux, mais le déclenchement des opérations a été décidé de manière totalement unilatérale, ce qui a été vécu par la Russie comme une humiliation. On se permettait de faire quelque chose en Europe sans même l'informer, sans même la prévenir. Et dans le discours de Poutine, encore aujourd'hui, la référence au Kosovo est constante parce que ces bombardements, je pense notamment à la guerre de Géorgie en 2008, aux événements en Ukraine et notamment l'annexion de la Crimée en 2013, parce qu'il y a ce traumatisme de la guerre du Kosovo. Donc là, finalement, Clinton fait juste bien les choses. Il prend la peine de décrocher son téléphone, d'envoyer un message, et Poutine, qui n'a pas de sympathie particulière pour Milosevic, qui arrive en plus aux affaires, voit juste, d'une part, une marque de reconnaissance et la possibilité de contribuer à gérer la transition serbe. Je crois que c'est tout. Après, sur le fond des choses, oui, c'est d'abord et avant tout un mouvement populaire, et un mouvement populaire qui ne vient pas de rien. Il faut quand même rappeler que la Serbie, même sous Milosevic, était une dictature d'un nouveau type, comparable à beaucoup de régimes que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu un prototype, un point de départ de ce que l'on a vu se répandre, ce que l'on voit toujours se répandre à travers le monde. C'est-à-dire des dictatures, mais où il y a des élections. Un peu truandées, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que, très souvent, dans les années 90, le pouvoir de Milosevic était sur le fil du rasoir. Oui. Et il n'a pu rester au pouvoir qu'en passant des alliances avec telle ou telle force. Donc, de ce point de vue-là, il y avait une opposition en Serbie. À l'hiver de 96-97, il y a eu un énorme mouvement de protestation, de mobilisation durant plusieurs mois contre, justement, le trucage des élections municipales de l'automne 96. C'est tout cela, cette maturation, qui a abouti, je dirais, en octobre 2000, avec en plus, bien évidemment, les conséquences des bombardements, du traumatisme des bombardements de 99.
Loïc Trégourès, Jean-Arnaud Dorens parle de traumatisme, il a raison, il y a le traumatisme des bombardements, la Russie n'avait pas été mise au courant, mais il y a aussi le traumatisme d'après, celui par lequel les États-Unis vont soutenir le projet d'autonomisation, d'indépendance du Kosovo, le tout sous l'égide des Nations Unies, mais ça, la Russie, ça passe toujours pas, on est vraiment sur un traumatisme. Rappelons d'ailleurs qu'à l'époque, quand la Serbie et la Russie s'opposent à ce projet d'indépendance, c'est notamment au nom d'une résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par lequel on doit garantir l'intégrité territoriale de la Serbie. Jean-Arnaud Dorens parle de traumatisme, c'est vrai que ça l'est, et en tout cas ça a façonné la manière de penser de Vladimir Poutine, de penser son rapport au voisinage.
Oui, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler de traumatisme, parce que c'est quelque chose qui intervient dans son discours, dans son narratif, qui est un outil très utile quand on parle ensuite de Crimée, quand on parle ensuite de Géorgie. Traumatisme, je sais pas. Encore une fois, l'indépendance du Kosovo, c'est le résultat d'un processus qui nous a amené à l'action de Martti à Tissahari, diplomatique, pour essayer de trouver une solution. Donc c'est vraiment l'aboutissement du constat qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Et c'est vrai que c'est une solution un peu bâtarde qui existe toujours aujourd'hui, puisque le Kosovo est reconnu par une centaine d'États dans le monde et que la Serbie fait un lobbying intense auprès de certains nombres de pays pour déreconnaître le Kosovo. C'est quelque chose d'assez inédit comme élément. Donc je ne sais pas si on peut parler de traumatisme. En tout cas, c'est quelque chose qui est très utile aujourd'hui dans la rhétorique. Et tous ceux qui sont un peu sur la ligne russe, sur la Crimée, sur la Géorgie, sur le Donbass, vous entendez beaucoup cette rhétorique. Ah oui, mais vous l'avez fait au Kosovo. Sauf que la Crimée et le Kosovo, enfin pour des raisons à la fois légales et politiques, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un artifice de langage de comparer les deux. C'est à ça que sert le Kosovo pour la Russie. Est-ce que c'est un traumatisme ? Je suis pas dans la psychologie de Vladimir Poutine pour le dire. Juste un tout petit point.
Je vous en prie.
Sur Milosevic et sur Vladimir Poutine, la Russie a accueilli la famille de Milosevic à Moscou, où elle a pu vivre très tranquillement. Et il y a un point dans le verbatim qui, moi, m'intéresse, c'est que Vojislav Koštunica, qui était le candidat de l'ensemble de l'opposition démocratique, qui était par ailleurs quelqu'un qui n'était pas du tout pro-occidental ou quoi que ce soit, Poutine dit « oui, il ne veut pas me parler ». Donc, il y a aussi l'idée que on veut pas trop que les autres se mêlent de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est, ça m'a beaucoup intéressé pour quelqu'un comme Kochmitsa, qui ensuite, qui était déjà pas très pro-occidental et qui s'est ensuite révélé très proche des positions russes.
Sans compter qu'il faut rappeler qu'en réalité, il y a 20 ans, il ne pèse pas tellement politiquement et géopolitiquement ce Vladimir Poutine-là, celui de 2000. Jean-Arnaud de Reims, venons-en peut-être à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe notamment sous l'égide des Nations Unies, c'est une tentative de médiation entre la Serbie et le Kosovo. Vous avez probablement vu ces images assez étonnantes il y a quelques jours du côté de la Maison Blanche dans le bureau ovale, lorsque Donald Trump explique, alors que le président serbe est à sa droite, qu'il se réjouit que la Serbie ait accepté de transférer son ambassade en Israël à Jérusalem, le président serbe se pâlissant, regardant à l'intérieur des feuilles qui sont devant lui pour regarder ce qu'il avait vraiment signé, parce que visiblement il n'avait pas l'air vraiment d'être au courant. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, il va refaire le service après-vente et dit non, il n'est absolument pas question de transférer l'ambassade. Mais au-delà de l'anecdote, ça casse quelque chose qui est l'accord lui-même, l'accord de coopération économique entre la Serbie et le Kosovo, dont à l'arrivée, on n'a finalement pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il y a dans cet accord-là, qui est un accord inédit ?
Il n'y a rien du tout. La réponse est très simple. Il n'y a rien du tout dans l'accord. Et cet accord, très certainement, si Donald Trump ne gagne pas les élections, sera mort et enterré le 4 novembre. Donc je crois qu'on est vraiment sur un accord de circonstance. S'il y a un point, le Kosovo et la Serbie s'engagent à ne pas développer la 5G ou la technologie d'origine douteuse, entendre la Chine. 10 jours après, Huawei était à Belgrade et signait un contrat en présence d'Aleksandar Vučić. Ce qui montre bien à quel point Aleksandar Vučić, qui au passe le président serbe, qui est un rusé coquin, mais quelqu'un de très intelligent, prend au sérieux ce qu'il a lui-même signé à la Maison Blanche. Et comment il prend lui-même au sérieux Donald Trump. Sur le fond, j'ai envie de revenir sur la notion de traumatisme. Qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis d'accord avec ce que disait Loïc Trégourès, mais je crois que le traumatisme, c'est pas sur le Kosovo lui-même. Poutine n'en a rien à faire du Kosovo. C'est sur le déni apporté au rôle de la Russie comme grande puissance internationale. C'est là-dessus, c'est une question de pouvoir. Et ensuite, Poutine a utilisé l'argument du Kosovo pour favoriser des séparatismes qui, formellement, sont des situations très comparables à celles du Kosovo. Alors, on peut parler après de dynamiques historiques, sociales qui peuvent être différentes. Mais formellement, c'est pas un béni pour la Russie de mettre en avant, effectivement, en exergue, le Donbass, la Crimée, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, du Sud, etc. Sur le fond, qu'est-ce qui s'était passé dans cet accord de Washington signé le 4 septembre? La Maison-Blanche, les États-Unis semblaient s'être totalement désintéressés des Balkans depuis longtemps. Et depuis à peu près un an ou un petit peu plus, ils ont repris le dossier. Et il y a certainement des gens qui ont soufflé à l'oreille de Donald Trump qu'il était possible de faire un coup politique international à propos du Kosovo. Alors je pense que Donald Trump a demandé le Kosovo c'est où? Mais si, monsieur le Président, c'est en Europe. D'ailleurs, les démocrates ont bombardé. Ah! Les démocrates ont bombardé. On va faire mieux qu'eux. On va faire un accord. Eux, ils ont fait la guerre qui n'a rien apporté. Nous, on va faire une paix extraordinaire basée sur l'économie. Ça va être un grand succès de politique internationale. Et de manière tout de même assez étonnante, Donald Trump a parlé du Kosovo dans ses meetings de campagne qui ont suivi immédiatement la signature de l'accord. Alors je pense franchement que le Kosovo laisse très largement indifférent l'essentiel de l'électorat trumpiste. Quel était l'intérêt pour les États-Unis? Sur quoi reposait l'idée du deal, portée notamment par une personne qui s'appelle Richard Grenell, qui est le conseiller du cabinet de Donald Trump et émissaire spécial pour les Balkans? C'était de parvenir à un accord, un deal, qui aurait été basé sur un échange de territoire. Alors ça, c'est tombé à l'eau. Ça ne marche pas, on n'en parle plus, ce n'est plus du tout en question. Mais il y a un point qui est très intéressant par rapport à la Russie, c'est que sur cette question d'échange de territoire, la Russie a toujours observé un parfait silence. La Russie n'a jamais dit qu'elle était pour ou contre, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'est pas du tout contre. Encore une fois, la Russie se contrefiche du Kosovo. Mais si les Américains poussaient à cette solution et y parvenaient dans le cas du Kosovo, c'était un précédent naturel de plus pour justifier l'annexion de la Crimée, éventuellement celle du Donbass ou d'autres régions.
Alors on va revenir sur cette idée-là, mais Loïc Trégourès, au fond, est-ce que l'idée de Donald Trump est aussi farfelue que ça? Parce que ça fait 20 ans que les Européens essayent de trouver une issue politique à ce conflit et qu'ils n'y arrivent pas. Là, d'une certaine manière, Donald Trump, il contourne la chose, puis il contourne la question purement de la paix. Il propose d'aller vers la coopération économique et ensuite adviendra peut-être qu'il adviendra, à savoir la paix. En gros, il utilise la stratégie qu'il a tentée du côté de conflit israélo-palestinien. Est-ce que finalement, c'est une si mauvaise idée que ça?
Je ne sais pas, regardez le résultat dans le conflit israélo-palestinien. Où sont les milliards promis par Jared Kushner? Enfin, tout ça, c'est... Je fais une parenthèse quand même. Dans cet accord qui n'en est pas un, il y a quand même une chose a priori concrète, c'est que Israël reconnaît le Kosovo, ce qui n'était pas le cas jusque-là, et que, alors ça, on verra le déplacement des...
L'inverse était vrai, c'était normal. Le Kosovo avait reconnu Israël. C'était le deuxième pays musulman à le faire après...
Bien sûr. Alors, vous voyez le problème, c'est que Donald Trump et toute l'administration américaine ont communiqué sur cet accord, regardez, il y a un pays européen qui va mettre son ambassade à Jérusalem, c'est la Serbie. Deux, il y a un pays musulman qui reconnaît, Israël. Donc, présenter le Kosovo comme un pays...
Le 2 était vrai, le 1 était un peu falsifié.
Le 2 est vrai. Reconnaître...
Non, Kosovo, pays musulman, c'est officiellement un pays laïque. Il y a au Kosovo des orthodoxes serbes, mais il y a aussi des albanais catholiques. Donc, je pense que c'est déjà une réduction utilisée par l'administration américaine de dire Kosovo pays musulman.
Bien sûr, mais vous voyez bien que l'objectif, c'était... Non, présenter le Kosovo comme un pays musulman, c'est franchement pas lui rendre service. Et vous voyez bien que l'objectif, c'était...
De servir son propre intérêt.
De servir son propre intérêt vis-à-vis d'Israël, de faire un coup comme ça. Bon, sur les questions de modification de territoire, l'ennui avec ça, c'est que vous réglez aucun problème. Vous réglez pas nécessairement les problèmes économiques, même si vous allez baptiser Trump le lac qui est au nord du Kosovo, c'est très amusant, mais ça règle aucun problème. Vous réglez pas les problèmes complexes qui sont sur le terrain, vous réglez pas les histoires de diplômes, vous réglez pas les histoires d'échanges, vous réglez pas grand chose, et éventuellement vous créez d'autres problèmes. C'est des trucs tout bêtes, mais si vous faites des changements de territoire, il y a des gens, il y a des Albanais du sud de la Serbie qui vous expliquent aujourd'hui, moi ma retraite en Serbie, je la touche, ça vaut tant. Si demain vous me faites passer au Kosovo, j'ai moins. Donc c'est des choses qui sont, enfin, c'est du détail. On n'est pas avec une carte, avec un gros crayon, et à essayer de dire voilà, on va passer là et puis on verra bien ce qui se passe. Il y a des gens sur le terrain, et ça, c'est des choses. On peut bien se dire comme ça, ah oui, ça, écoute, c'est la logique après tout. Mais les gens sur le terrain sont pas du tout sur cette ligne là.
Nul, Loïc Trigourès, s'imagine que tout cela est simple. Évidemment, des échanges de territoire, c'est extrêmement compliqué. Eux si, mais mettons de côté la démarche un peu simpliste qu'il y a derrière l'administration américaine. Si on regarde les choses de façon un peu sereine et en acceptant la complexité du dossier, est-ce que le principe d'un échange de territoire, sachant combien aujourd'hui ce Kosovo est fracturé, quand on regarde le nord du Kosovo, on a des zones qui sont en réalité habitées par des Serbes et la cohabitation est tout simplement impossible. Évidemment, le symbole de tout ça, c'est Mitrovica, qui est une ville qui est occupée au nord par des Serbes et au sud par des Albanais, tout ça étant officiellement en territoire kosovar, et on ne vit pas ensemble. On habite à côté, mais on ne vit pas ensemble. Est-ce qu'après tout, des échanges de territoire dans ces zones-là seraient possibles? Loïc Trigourès, et puis je vous repasserai la parole. Ça vous paraît un peu...
Je crois qu'il y a... D'abord, sur le principe, la question se pose. Et ensuite, je ne crois pas que ça résoudrait des sujets, je pense que ça en ouvrirait d'autres. Mmh. Après, il y a une chose, c'est que sur le long terme, ce qui peut intéresser le président serbe sur cette histoire de changement de territoire, bon, franchement, vous récupérez le nord du Kosovo, il n'y a pas grand-chose, c'est pauvre, etc., mais c'est des gens qui votent, pourquoi pas. Mais c'est pas ce coup-là qui est important. Le coup qui est important, c'est de dire, on a ouvert le principe que pour résoudre un conflit, on peut changer des frontières. Et donc, que ce soit dans les Balkans ou ailleurs, ça devient une option. Si, et c'est l'argument rhétorique qui est utilisé à chaque fois, si les deux peuples, après consultation, par référendum, blablabla, pas truqué, etc., etc., se mettent d'accord là-dessus, qui sommes-nous pour ? Ok, pas de problème. Sauf qu'à aujourd'hui, si vous faites un référendum là-dessus, les deux peuples sont pas d'accord. Parce qu'ils savent que ça règle pas les problèmes, que ça va en créer d'autres. Ils sont passés par là, ils savent. Et pas seulement dans les Balkans.
Jean Nodorin.
Oui, juste un petit remarque statistique. Il y a à peu près 100 000 Serbes qui vivent aujourd'hui au Kosovo, en étant en comptant large, parce qu'en réalité le Kosovo se vide de sa population pour des raisons économiques, que ce soit les Albanais ou les Serbes, tout le monde s'en va, ou les Roms ou les autres communautés. Mais sur ces 100 000 Serbes, disons théoriques, il y en a à peu près 30 000 qui vivent au nord, dans ce secteur contigu à la Serbie homogène, et 70 000, c'est-à-dire deux fois plus, qui vivent au sud, en territoire majoritairement albanais. Je crois que l'idée d'un échange de territoire, c'est donc l'idée de faire des frontières justes parce qu'ethniques, ça relève de l'hubris néocoloniale de l'Occident, rien d'autre. Cette idée, nous savons, Et nous allons, dans le calme des cabinets, sur une carte, voilà, tracer des belles lignes. Après, on pourra colorier les petites entités qu'on aura découpées. Ça sera merveilleux, ça fera une très très belle carte. Mais ça se passe pas comme ça. Comme le disait très bien Loïc Trégourès, il y a des gens qui vivent sur ces territoires. Et ces gens-là, ils ont toute une série de problèmes. Ils n'ont pas du tout envie. Il n'y a pas de partage de territoire.
Jean Nodorin, vous connaissez mieux que personne le Kosovo. Oui, vous savez mieux que personne qu'en réalité, aujourd'hui, les deux communautés ne vivent pas ensemble. Ils ont à peine... s'adressent à peine la parole dans des villes comme Mitrovica, par exemple.
Alors, le problème...
On ne parle pas la même langue. On ne veut pas s'adresser à l'autre.
C'est largement vrai, mais pas totalement. Le problème, c'est l'injonction du pouvoir politique. Et le pouvoir politique à Belgrade entretient toujours des institutions dites parallèles, même si elles ont en théorie été démantelées, mais continuent de payer les salaires, continuent de payer les retraites des Serbes qui vivent là. C'est toujours, de fait, Belgrade qui gère l'hôpital de Mitrovica, qui gère les écoles, qui gère la poste, qui gère toutes les institutions de la vie sociale. Ça, c'est quelque chose de politique, pas d'ethnique. Il y a une manipulation politique qui crée de la tension dite ethnique. Après, les gens, prenez pour le coup les Serbes qui vivent au nord dans ce qu'on appelle des enclaves. Alors, c'est pas du tout, il s'agit pas du tout d'idéaliser, c'est pas le principe même d'une enclave, c'est pas extrêmement agréable. Mais ceci étant, ces gens, ils ont juste envie de pouvoir travailler, de pouvoir faire du commerce, de pouvoir, beaucoup sont agriculteurs, de pouvoir vendre leurs produits au Kosovo. Et certains le font, de plus en plus. Là, la vraie question, c'est politiquement quelle injonction on donne, notamment pour que les autorités du Kosovo comprennent l'importance de vivre et de travailler avec les Serbes. Pour le coup, juste avant quand même les accords de Washington, il ne faut pas oublier qu'un gouvernement légal a été démis sur ingérence directe des États-Unis. C'est le gouvernement dirigé par Albin Kurti. Albin Kurti que l'on présente parfois comme un grand patriote albanais, mais qui en même temps disait il faut arrêter de parler d'échange de territoire, il faut arrêter de trouver une solution à Bruxelles ou ailleurs, il faut que nous, on trouve une manière de vivre avec la communauté serbe. Et sur ce point-là, Albin Kurti était très concret et très sincère. Bon, il est arrivé au gouvernement en période de Covid, il n'a pas eu le temps de mettre en place d'une réelle politique, mais je pense que du côté kosovar, il y a aujourd'hui de plus en plus d'acteurs qui ont réellement, sincèrement, envie de s'engager dans cette dynamique-là. Après, il faudrait aussi que du côté de Belgrade, il n'y ait pas un blocage politique.
Alors, oublions l'idée de retracer les frontières, oublions l'idée encore plus saugrenue d'une réintégration du Kosovo, pourquoi pas l'Albanie, puisqu'il y a beaucoup d'Albanais qui y vivent. Oublions tout cela, regardons les choses localement. Loïc Trégourès, est-ce qu'on peut localement trouver des solutions, sachant que, rappelons aussi peut-être un point d'actualité important, qui est que aujourd'hui le président du Kosovo fait face à des accusations de crimes de guerre lancées en juin dernier par le tribunal spécial pour le Kosovo, et qu'il est tout à fait possible que demain il se retrouve à répondre de ces crimes. C'est un ancien commandant de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Peut-être vous pourrez nous dire un mot sur le passé trouble de cet homme, mais est-ce qu'un homme comme lui, j'ai oublié son nom, Hashim Thaçi, ça y est, il me revient, est-ce qu'un homme comme lui est en situation de régler localement les problèmes?
Alors non, mais politiquement, il est, comme on dit en anglais, c'est un lame duck. Donc c'est quelqu'un qui arrive en fin de mandat. Quand bien même ne serait-il pas inculpé, il arrive en fin de mandat. Bon, alors il aurait peut-être un push si jamais il n'est pas inculpé. Mais globalement, il appartient au présent et de plus en plus au passé. C'est l'objet pour lui d'aller à l'échange de territoire avec le président Vučić et de participer à ce coup d'État institutionnel qui a renversé l'ancien gouvernement, c'était parce que c'était de jouer le va-tout, d'avoir un accord de reconnaissance mutuelle, d'avoir le Kosovo à l'ONU, de rester dans l'histoire comme celui qui serait parvenu à faire ça. Mais je ne crois pas que l'avenir politique du Kosovo s'inscrive dans les pas de Hashim Thaçi. Et je pense qu'il est en politique, il y a toujours des surprises, mais c'est pas lui qui représente.
En attendant, c'est lui qui est à la tête du Kosovo.
Oui,
mais il faut régler les choses.
Oui, mais ça fait 6 mois qu'il est de fait hors jeu parce qu'il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de lui et que tant qu'elle sera pas tombée d'un côté ou de l'autre, de toute façon, il est hors jeu. Et pour la suite, on verra. Il y a des combinaisons de gouvernement pour faire des majorités, mais son mandat s'achève en 21 de l'année prochaine et il sera pas reconduit. Donc lui, c'est pas le sujet. Sur les modalités en interne, il faut quand même rappeler que le coup de maître de Belgrade, c'est d'avoir pris le monopole total de la représentation politique des Serbes du Kosovo. Et les acteurs qu'on n'entend jamais, ce sont les Serbes du Kosovo, et en particulier ceux des enclaves. Aujourd'hui, le monopole de la représentation politique, de gré ou de force, elle est tenue par Belgrade. Donc, outre tout ce qu'a dit Jean-Arnaud Derain sur le financement de la vie sociale...
Quand vous dites Belgrade, vous dites le régime de Vučić?
Oui, c'est-à-dire la liste serbe, c'est-à-dire les dix sièges qui sont au Parlement du Kosovo. La liste serbe, c'est une liste qui est, sans que personne ne s'en cache, qui est contrôlée, téléguidée depuis Belgrade. Donc, vous voyez, et de gré ou de force, ça veut dire que, faut peut-être rappeler l'assassinat d'Oliver Ivanovic il y a pas très longtemps.
C'était en 2018, voilà. c'est un membre du Parti démocratique.
En tout cas, c'était un opposant, et c'était quelqu'un qui était sur la ligne, qui parlait l'albanais, et qui était sur la ligne du, mais enfin, on est au Kosovo, on est entre nous, et on est des Serbes du Kosovo, et il va bien falloir s'entendre avec les Albanais.
Considéré comme un modéré. Et quoi, pardon, son assassinat, c'est lié précisément à cette modération, et elle a été pilotée depuis Belgrade?
On sait que à Mitrovica, vous avez des gens qui sont à la fois liés au crime organisé, qui sont liés au parti au pouvoir à Belgrade. Ça, c'est pas un secret.
Si on commet un excès de vitesse à Mitrovica, Vučić est averti dans les 5 minutes qui suivent. Donc, je pense pas qu'on puisse tuer quelqu'un comme Oliver Ivanovic sans que l'ordre devienne du plus haut niveau, du plus haut sommet à Belgrade. C'est une évidence.
Bon. D'accord. Donc, les Serbes du Kosovo, on les entend jamais. Les Serbes des enclaves, on les entend jamais. Ils n'ont pas cette représentation politique. Donc, quand bien même voudriez-vous dire, bah, localement, on peut essayer de s'entendre, en fait, ils n'ont pas la parole. Et c'est pour ça que le jeu de Belgrade, si on rentre dans des histoires territoriales, peut-être qu'on peut jouer le coup d'après, ça devient intéressant de dealer. Mais fondamentalement, pour Aleksandar Vučić, c'est pas forcément très intéressant de régler le problème du Kosovo tout de suite. Parce que ça reste un écran de fumée, parce que ça reste un truc qui permet de créer des tensions en permanence, et parce que ça lui permet de toujours se présenter, ce qu'il fait depuis 10 ans pratiquement, comme le seul qui peut régler le sujet vis-à-vis, en particulier, des Européens.
Alors, on va venir, parce que ce que j'ai prévu de faire, d'arriver sur Vučić, parce qu'en réalité, de fait, c'est lui qui a les clés de ce sujet-là. Mais vous me disiez juste avant, il faut régler les choses localement. Or, vous me dites aussi, Loïc Trégorès, qu'on a plusieurs problèmes. D'abord, un pouvoir kosovar qui est extrêmement fragile. Il faut attendre la suite. On a une représentation des Serbes du Kosovo qui est extrêmement difficile aussi, voire totalement conditionnée par le pouvoir de Belgrade. Est-ce qu'il y a un autre moyen qu'on pourrait suivre quand même localement, en contournant les choses? Et là, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Arnaud Derain, vous disiez ce que veut le paysan kosovar, c'est pouvoir vendre ses produits. Est-ce que, par le biais économique pur, on peut trouver des solutions? Il y a depuis un certain nombre de mois des réflexions autour de l'idée d'un marché commun des Balkans. Il y a eu une réunion, je crois que c'était en décembre 2019, dans la ville d'Ohrid, une très belle ville avec un lac qui porte le même nom, pour discuter de la possibilité de la création de ce marché commun régional. Et on y trouvait le président serbe, d'ailleurs, il était là. Il y avait des représentants également de la Bosnie, de la Macédoine du Nord, du Monténégro. C'est ce que j'ai lu dans la documentation préparant. Vous faites nom du doigt, Jean-Arnaud Derain, vous allez me corriger. Mais est-ce que, où en sont ces discussions? Et est-ce que l'idée de ce marché commun pourrait permettre de commencer à trouver un début de solution?
Non, c'est une coquille vide, c'est une opération politique qui réunissait essentiellement, justement, Aleksandar Vučić, Hashim Thaçi, le premier ministre albanais, hein, Edi Rama, était tout à fait impliqué dans l'affaire. La Macédoine du Nord est très divisée. Le premier ministre Zoran Zaev, qui est, disons, très très lié aux États-Unis, y était allé. Le président.
Mais Thaçi y était, parce que moi, c'est précisément ce que j'ai.
Oui, oui, non.
Thaçi n'y était pas, visiblement.
Non, le Kosovo n'était pas représenté en tant que tel. Voilà. Enfin, le Kosovo était prêt à adhérer. Par contre,
Le Serbie ne voulait pas.
Pas en tant qu'État indépendant. Par contre, le Monténégro n'y était pas, et le Monténégro était contre. Le président de Macédoine du Nord y était également très hostile, et la Bosnie n'était pas non plus. Mmh. Voilà, on est quand même sur un cadre très théorique. Je pense qu'une des idées d'Aleksandar Vučić, c'était surtout d'avoir un cadre de débat direct avec Edi Rama, le premier ministre d'Albanie, pour se positionner tous les deux en leader ethnique, pour dire, moi, Vučić, je suis le chef, le porte-parole, le représentant de tous les Serbes, et toi, Edi Rama, tu es le porte-parole de tous les Albanais, y compris ceux du Kosovo. Donc, rentrer dans cette logique ethnique. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, c'est totalement une coquille vide. On verra bien si ça a rebondi d'une manière ou d'une autre. Là, je ne suis pas devin. Ce qui est important de comprendre, c'est que le rapprochement, le développement des échanges économiques, ça dépend fondamentalement de l'impulsion politique. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'économie, il n'y a aucune complémentarité des économies entre les pays de la région, parce qu'il n'y a fondamentalement pas d'économie, et tout est préempté par le pouvoir politique. Alors sur ces pouvoirs politiques, une remarque est importante, c'est qu'en théorie, la Serbie et le Kosovo sont des démocraties parlementaires, où l'essentiel des compétences revient au gouvernement, au Premier ministre, pas du tout au Président de la République, qui a pour fonction théorique d'inaugurer les chrysanthèmes. Il y a déviation, perversion du cadre constitutionnel quand le Président de la République est en même temps le chef du parti dominant. Ce qui est le cas en Serbie avec Aleksandar Vučić, qui est à la fois président de la République et chef du Parti progressiste serbe, qui a encore obtenu aux élections fort contestées et contestables de juin dernier la majorité absolue. Et c'était aussi le cas avec Hašim Tači, qui est en même temps, même s'il n'a plus le titre formel de président du parti, le chef du PDK, qui était jusqu'aux dernières élections vraiment le parti dominant au Kosovo. Ça, c'est ce cadre-là qui, au Kosovo, est en train de vaciller, qu'Hašim Tači doive partir ou non dans les prochaines semaines en vacances prolongées sur les bords de la mer du Nord.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces discussions, Loïc Trégorès, autour de ce mini Schengen des Balkans, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est aussi le révélateur de l'impasse totale de ce projet d'adhésion à l'Union européenne. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que toute perspective est totalement bloquée, donc on essaye de trouver des solutions plus locales. Mais c'est aussi ça, ça révèle aussi ça, Loïc Trégorès.
Oui, l'ancien commissaire européen à l'élargissement était beaucoup sur cette idée. Faites ce marché commun ensemble, faites un mini Schengen ensemble. Et c'est pour ça que tous les pays n'adhéraient pas, parce que certains avaient le sentiment de « attendez, vous nous demandez de refaire de la Yougoslavie ». Donc il y avait aussi du côté de l'imaginaire quelque chose qui allait pas. Et l'autre chose, c'est que ils pensaient aussi, mais vous nous demandez de faire un truc entre nous parce que vous savez très bien, sans nous le dire, que de toute façon on rentrera pas. Donc il y a ça derrière. Après, sur la complémentarité des économies, je suis d'accord avec Jean-Anders, il faut voir que les principaux partenaires économiques de chacun de ces pays là c'est pas nécessairement les voisins directs. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie. Donc il faut voir comment les économies sont orientées, comment les échanges sont orientés. Est-ce que ça a nécessairement du sens de faire ça ? Pas sûr. Après, faire un mini Schengen, alors appelons ça comme on veut, par principe, faire tomber des frontières qui posent des problèmes de circulation entre les gens qui circulent, de fait, hein, entre la Bosnie et la Croatie, alors c'est pas le bon exemple, la Macédoine, la Serbie, pourquoi pas, hein. Mais on s'attaque pas au fond du problème. Et si on veut parler d'intégration européenne, on s'attaque pas au fond du problème, qui est la concomitance entre les 10-15 dernières années de ces pays qui sont candidats ou qui aspirent à devenir candidats, etc., et qui suivent un peu tout le parcours comme ça. La concomitance entre ça et la régression démocratique d'un grand nombre de ces pays-là. C'est quand même un problème.
Jean-Arnaud de Reims, si aujourd'hui cette cohabitation entre les différentes communautés n'est pas possible, c'est qu'il y a quelque chose qui a été raté, pour le moins, dans la transition post-Milosevic. Qu'est-ce qui a été raté ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Alors, pour commencer, je ne suis pas sûr que la cohabitation soit impossible, soit si mauvaise que cela. Pour le coup, paradoxalement, la Serbie se retrouve à être le pays le plus multiethnique des Balkans, avec des communautés hongroises, des communautés roms, des communautés bosniaques, des communautés plus petites, roumaines, bulgares ou autres. Ça se passe pas mal du tout. Enfin, c'est pas un problème, c'est pas un sujet. De toute manière, le destin commun de tous ces gens,
En Serbie.
Des Hongrois de Vojvodine, des Roumains des rives du Danube ou du Banat, et des Serbes, est le même. C'est aujourd'hui partir à l'étranger. Ce qui a été raté fondamentalement, c'est deux choses. C'est la transition politique, donc la démocratisation a été totalement ratée, et également la reconstruction économique a été encore plus ratée. Ça, c'est vrai dans tous les pays de la région. Donc c'est clairement le logiciel proposé et mis en œuvre par la communauté internationale qui n'a pas marché, ce que je dis est vrai, de la Bosnie-Herzégovine comme de la Serbie ou du Kosovo ou de l'Albanie. De ce point de vue-là, il y a un échec partout qui a permis l'arrivée au pouvoir de ces nouveaux autocrates qui, pour le coup, se disent formellement pro-européens. Pourquoi est-ce que M. Vučić ou M. Edi Rama se disent pro-européens ? Parce qu'ils savent très bien que ça n'a aucune conséquence pratique.
Tout en étant des ultranationalistes affichés.
Tout en étant surtout des kleptocrates qui aiment avant tout le pouvoir et l'argent.
Non, mais il y a aussi une rhétorique nationaliste derrière.
Chez Vučić, oui, chez Diram un petit peu moins, quoique ça dépend des jours. Je crois que fondamentalement, c'est l'argent et le pouvoir. Après, le nationalisme, c'est toujours un bon argument pour conserver l'argent et le pouvoir, mais on peut en trouver d'autres. Hein. Vous savez, ça, il suffit de chercher un petit peu. Mais c'est vrai que le nationalisme est souvent la carte la plus simple à jouer, celle qu'on a toujours dans sa manche.
C'est un peu à l'image de ce qu'a fait Orban, c'est-à-dire qu'ancien libéral, il s'est converti à l'ultraconservatisme, au nationalisme, par opportunisme politique.
Bien sûr. Alors, prenez pour le coup quelqu'un comme Vučić. Lui vient de l'extrême droite ultra-nationaliste et pour le coup, je pense, j'ai envie de dire, allez, soyons gentils avec Vučić, s'il y a bien un point qu'on peut lui accorder, c'est qu'il était vraiment sincèrement nationaliste quand il était jeune. Pour le reste, sur les convictions et les idées de Vučić, je n'en sais absolument rien. Et, en tout cas, ce Vučić a compris en 2008 que son intérêt pour accéder au pouvoir était de se dire formellement pro-européen. Donc, jusqu'au mois d'octobre 2008, l'Union européenne était une invention satanique visant à détruire le peuple serbe. Et au début du mois de novembre 2008, ça s'est passé, paraît-il, à Paris, il a vu, sinon la Vierge, du moins les étoiles européennes, et il est brusquement devenu un fervent partisan de l'intégration européenne. De manière...
Ça a payé politiquement.
Totalement utilitaire, ça a payé, il est arrivé au pouvoir, il s'y maintient. Et alors aujourd'hui, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste... C'est le problème de fond du côté européen. C'est l'Union européenne n'a pas de politique à proposer à la région. Le seul mantra européen, c'est la stabilité. Mais la stabilité, vous la maintenez toujours avec les caïds, avec ceux qui pourraient créer de l'instabilité. Donc, de ce point de vue-là, l'Union européenne s'accommode parfaitement bien d'un Vučić pour peu qu'il se dise formellement pro-européen, tout le monde sachant très bien par ailleurs que cela n'a aucune conséquence pratique, ni en termes de démocratisation, de développement économique ou de potentielle intégration du pays. Tout dernier point, si vous me le permettez, vous avez évoqué Viktor Orban. Aujourd'hui, le meilleur ami d'Alexander Vučić, c'est Viktor Orban. Je rappelle une chose, la Hongrie, qu'on le veuille ou non, est dans l'Union européenne. Donc être pro-européen, comme prétend l'être Alexander Vučić, n'est pas incompatible avec le fait d'être copain avec M. Orban, qui est un dirigeant européen comme un autre. Pour Viktor Orban, l'enjeu est très important. Et c'est effectivement Viktor Orban et le groupe de Visegrad qui sont de plus en plus présents, qui eux ont une politique dans les Balkans, contrairement à l'Union européenne. Pour Viktor Orban, c'est tout bête. C'est déjà avoir le soutien, par exemple, de beaucoup d'eurodéputés de droite bulgares ou slovènes, c'est intéressant, ça fait des gens de plus qui peuvent le soutenir au Parlement. Le gouvernement de la petite Slovénie, qui est membre de l'Union européenne depuis 2004, est aujourd'hui totalement téléguidé, totalement aligné sur la ligne de Viktor Orban. Et dans le cas de la Serbie, Orban se dit deux choses.
Il se dit d'une part
que le parti d'Aleksandar Vučić, le parti progressiste serbe, est membre du Parti populaire européen. Donc de ce point de vue-là, c'est un allié, petit certes, mais qui n'est pas à négliger. Et puis il se dit, somme toute, après tout, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, peut-être bien qu'un jour, la Serbie sera dans l'Union européenne. Et il est peu probable que Serbie envoie beaucoup de députés verts ou sociodémocrates au Parlement européen.
Pour le moment, en tout cas, Loïc Trégorès, et puis ensuite on accueillera une nouvelle invitée, Aline Kateu. On va aller à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, et en particulier sur le pont de Mostar, qui est vraiment le symbole, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a voulu, de la réconciliation après les guerres. Loïc Trégorès.
Juste deux détails à propos de l'Union européenne. D'abord, ce que disait Jean-Arnaud Derain sur le Parti populaire européen, parce que c'est une dimension qu'on oublie souvent. Mais le Parti populaire européen a tout fait pour légitimer la ligne d'Orban, ne l'a jamais disqualifié au prétexte que en face les sociodémocrates avaient leurs Roumains et autres. Et encore aujourd'hui, sur cette ligne-là, le parti d'Aleksandar Vučić, qui a donc gagné des élections en forme de farce, a été félicité par Donald Tusk, du Parti populaire européen. Donc il y a cette ligne de fracture qui fait que, de toute façon, même au Parlement européen, il y aura une division partisane sur ce sur quoi on devrait s'entendre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une démocratie libérale, qu'est-ce que sont des pratiques libérales sur le plan politique, et qu'est-ce qui n'en sont pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans le rapport sur l'état d'avancement des pays publié par la Commission très récemment, il y a une petite argutie rhétorique. Le rapport ne dit plus l'intérêt stratégique à long terme de la Serbie, c'est l'intégration européenne. Il dit la Serbie dit que son intérêt stratégique à long terme, c'est l'intégration. Donc là aussi, c'est une façon très polie de dire qu'on n'est pas dupe par rapport à ça.
Allez, direction Mostar, Bosnie-Herzégovine, l'une des villes qui a été le plus durement touchée par les destructions et les affrontements durant la guerre. Elle avait été au centre des attentions durant le conflit parce que totalement divisée en deux, entre une partie est bosniaque musulmane et une partie ouest majoritairement habitée par des Croates orthodoxes. Au lendemain de la guerre, la ville fut l'objet d'une attention toute particulière, notamment de l'Union européenne, qui entreprit d'en faire un symbole de réconciliation, notamment à travers la reconstruction à l'identique du célèbre pont, le Stari Most, le vieux pont symbole de la ville. On va en parler tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avions l'habitude de traiter le vieux pont comme un être vivant. Les plongeurs le nettoyaient, le polissaient et on prenait soin comme si c'était une chose vivante et respirante. Il nous a servi pendant 5 siècles avant d'être détruit, comme vous le savez déjà. Ce pont a ensuite été transformé en une sorte de frère du vieux pont d'origine. Nous espérons qu'il nous survivra et que nous pourrons le voir encore de nombreuses années, peut-être encore 1000 ans.
Voilà, cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est Emir Balic, 85 ans, qui a été plusieurs fois, 13 fois champion du monde de plongeon à Mostar, parce que c'est une des choses qu'on fait depuis le monde et qui témoignait, depuis le pont, pardon, et qui témoignait donc de cette reconstruction de ce pont symbole. Bonjour Aline Cateux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en anthropologie sociale et membre du laboratoire d'anthropologie prospective IACOS de l'Université de Louvain. Ce pont, c'est un magnifique édifice de pierre construit en 1565 par les Ottomans. De part et d'autre, on trouve aussi donc cette immense arche qui enjambe la Neretva, qui est 20 mètres plus bas. Et puis, on a deux tours fortifiées, magnifiques aussi, un petit peu plus récentes, celle-là. Que représente cet édifice-là avant que la guerre n'éclate? Ce qu'il se dit, c'est que c'était le symbole de la mixité sociale, du mélange des communautés, des ethnies, des religions. Est-ce que c'est vraiment ça, le pont, avant la guerre?
Alors, avant la guerre, en effet, le pont est le symbole absolu et total de Mostar, qui tire son nom du pont. On dit Most en serbo-croate. Mostar veut dire la ville des gardiens du pont. Donc, c'est un symbole qu'on trouve absolument partout sur les représentations de la ville, qu'on trouve partout également en ville, dans les magasins, dans les appartements privés des gens, sur les cartes postales. Et comme le dit très justement Emir Balic dans cette jolie archive que vous avez diffusée, c'est quasiment une présence organique dans la ville. C'est-à-dire que dans le langage des Mostariens, d'abord on l'appelle le vieux, on ne l'appelle même pas le vieux pont, et il est pratiquement une personne vivante. Il est un personnage du quotidien, vraiment un compagnon du quotidien. Ça n'est qu'en effet qu'après le conflit que ce pont a été transformé en un symbole de coexistence, de multiculturalisme, de multi-ethnicité, de cohabitation pacifique.
Mais ça, c'est de notre point de vue à nous. Mais lorsqu'on habite dans cette ville, est-ce qu'on pense la même chose?
Aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui.
Alors, non, pas tout à fait. En fait, ce pont est devenu un symbole de réconciliation au moment de l'entreprise de la reconstruction de la ville par l'Union européenne, puisque l'Union européenne a été en charge de la reconstruction de Mostar. C'est un fait unique en Bosnie-Herzégovine. C'est la seule ville dont l'Union européenne s'est occupée directement, l'a placée sous administration directe. Et il fallait absolument stabiliser, hein, on a beaucoup parlé de stabilité précédemment dans l'émission, il fallait absolument stabiliser la ville, en quelque sorte la pacifier, et trouver un symbole qui allait pouvoir marcher pour relayer cette obsession en fait de la stabilité de l'Union européenne. Et le pont s'est prêté magnifiquement, en fait c'est devenu une métaphore, un outil qui allait raccommoder la ville qui était désormais divisée. Aujourd'hui, le pont, s'il est toujours le symbole de Mostar, on peut en quelque sorte dire que finalement, il appartiendrait surtout à un côté de la ville, puisque le patrimoine ottoman est du côté est de la ville, même si la ville a été réunifiée en 2004. Donc il est plutôt vu comme un symbole d'une partie de la ville. D'autre part, il y a aussi quelque chose qui entrave en fait cette réappropriation de ce nouveau vieux pont, hein, comme l'appellent les gens à Mostar, c'est que 60% de la population de Mostar aujourd'hui n'est pas née à Mostar. Ce sont des réfugiés qui viennent d'Herzégovine de l'Est, qui viennent de Bosnie centrale, et qui n'ont pas cet attachement au vieux pont qu'avaient les Mostariens d'origine, si je peux dire. Donc, il est plutôt devenu un monument bosniaque, approprié par différentes forces politiques et notamment les internationaux. Donc non, on ne peut pas dire que Stari Most est aujourd'hui un symbole pour tous les gens qui vivent dans la ville. Et notamment, Stari Most a également disparu dans les représentations dans toute une partie de la ville. À Mostar Ouest, vous ne trouverez pas, je ne sais pas, une fresque avec le vieux pont. Vous ne trouverez pas une photo du vieux pont, par exemple, dans les magasins, comme c'était dans les petites épiceries, dans le moindre recoin de la ville, comme c'était le cas avant la guerre.
Mais au-delà de la représentation du pont, est-ce qu'il est tout simplement utilisé, ce pont ? Est-ce qu'on va, justement, de l'autre côté ? Est-ce que, côté croate orthodoxe, on va du côté bosniaque, inversement, ou pas du tout ? Croate catholique, pardon.
Oui. il y a peu de mobilité d'un côté à l'autre de la ville. Le vieux pont est utilisé comme tous les autres ponts, à condition que ce soit sur le chemin. C'est un pont qui est aussi impraticable quand on n'est pas dans une période de pandémie et que la saison touristique est ouverte, puisque la vieille ville est vraiment pleine à craquer de touristes. Simplement, pour revenir sur ce manque de mobilité d'un côté à l'autre de la ville, je pense qu'il ne faut pas, si vous voulez, surinterpréter ce manque de mobilité. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que ce serait le signe d'une hostilité d'une communauté envers l'autre. Alors, il y a certainement, d'une part, plutôt une crainte, puisque ça fait 25 ans maintenant que la ville est divisée et que les gens ne se connaissent pas entre eux, d'autant plus que, je vous le disais précédemment, il y a 60% de la population qui n'est pas originaire de cette ville. Mais c'est aussi que avec la reconstruction de Mostar, on se retrouve avec une ville qui a quasiment deux centres-villes distinctes. Donc finalement, pourquoi traverser alors que finalement, tout ce dont vous avez besoin est en bas de chez vous? Et d'autre part, je pense qu'on a tendance à surinterpréter beaucoup de choses concernant la mobilité à Mostar. Comment nuancer un petit peu ce discours? Ce serait aussi de dire que dans le quotidien, même s'il n'y a pas beaucoup de mobilité, il y en a quand même. Il y a énormément d'endroits où les gens se croisent, au nord et au sud de la ville, dans les zones commerciales, pour des questions totalement pratiques, des magasins les moins chers, etc., etc. On ne va pas se poser la question.
Il y a de la mixité ethnique, malgré tout, dans d'autres endroits, pas forcément sur le pont de Mostar, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le pont, de toute façon, n'a jamais été un lieu de rencontre, c'est simplement
Lieu de passage, bien sûr.
De passage.
C'est évidemment c'est le but premier. Vous nous rappelez en quelques mots, on l'a pas dit peut-être, Aline Cateux, parce que ce vieux pont, il avait quand même résisté à tous les conflits jusqu'à ce qu'il soit détruit en 1993. Vous nous rappelez le contexte de sa destruction, qui l'a détruit, parce que là aussi il y a des débats, des querelles.
Alors, oui, on se demande pourquoi il y a des débats puisque
il devrait pas y en avoir normalement.
Il ne devrait pas y en avoir normalement. Le vieux pont a été détruit le 9 novembre 1993 par les forces armées croates. Il y a surtout un débat, en fait, sur la raison de la destruction du vieux pont. Les jugements du Tribunal pénal international de La Haye ont statué là-dessus en disant que le vieux pont avait été détruit parce que c'était un objectif militaire. C'était le dernier pont qui restait encore sur la Neretva après les deux guerres qu'a subi Mostar, et c'était le dernier endroit de passage pour l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine pour approvisionner la ligne de front, pour évacuer les blessés, etc. Donc le dernier pont qui restait a été détruit. Évidemment, ce n'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire qu'il y a cet objectif militaire de couper la logistique de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais il y a aussi probablement derrière cette volonté d'en finir une bonne fois pour toutes avec la ville d'avant. Il y a aussi certainement une dimension presque d'humiliation hein, dans la destruction de ce patrimoine ottoman. Avec cette destruction, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier acte de l'action de la division de la ville par les nationalistes croates.
Peut-être une toute dernière réaction, on arrive au terme de cette émission, Jean-Arnaud de Reims, Loïc Trégourès, en guise de conclusion. Loïc Trégourès, réaction sur ce pont de Mostar devenu symbole où la réconciliation se fait, en tout cas...
C'est très important ce que Alain Cateux a dit entre la différence entre, si vous voulez, la vie au quotidien et la façon dont on fabrique des frontières mentales. Il se trouve que sur Mostar, moi, j'ai un petit peu travaillé sur les supporters de foot et sur les représentations murales, les tags, etc. On voit bien des territoires qui sont opposés et des moments où on met en scène cette opposition, notamment lorsqu'il y a des derbies. Mais il faut jamais oublier que précisément cette dimension de mise en scène et la façon dont le politique, de part et d'autre, entretient cette division pour des intérêts qui lui sont évidents.
Jean-Arnaud de Reims est court. Vous pouvez faire, Jean-Arnaud de Reims, vous pouvez. Allez.
Et je vais rebondir sur ce que disait Loïc Trégourès. Cette mise en scène d'une pseudo-multi-ethnicité, et donc cette manipulation en réalité des arguments ethniques, c'est ce qu'a fait la communauté internationale en permanence, que ce soit en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo. On a quand même dépensé des milliards de toutes les monnaies du monde pour des programmes visant théoriquement à restaurer la multi-ethnicité. Or c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui était en jeu, c'était la démocratie et relancer aussi l'économie. C'est ce qui permet aux gens de vivre normalement. Et l'expérience des gens des Balkans, c'est qu'ils ont vécu normalement ensemble durant des siècles. Ensuite, il y a ce que j'appelais cette hubris occidentale de vouloir partager les tribus, partager les sauvages. Sur le fond, c'est toujours une logique néocoloniale qui prédomine dans la vision occidentale des Balkans. C'est ça, je pense, une des causes principales de l'échec international depuis 25 ans dans cette région.
Et maintenant, ils s'en vont tous. Maria Ruska, Maruska.
Merci infiniment à toutes et tous. Merci Aline Cateux d'avoir été avec nous ce matin en direct par téléphone. Merci Jean-Arnaud de Reims. Je rappellerai votre ouvrage que vous aviez coécrit avec Laurent Gélin, Là où se mêlent les eaux des Balkans au Caucase dans l'Europe des confins, c'était à la découverte. Merci beaucoup Loïc Trégourès. Vous concernant, vous l'avez en face de vous. Rappelez-moi le titre, Le football dans le chaos yougoslave. Les éditions non lieu. On va mettre évidemment tout ça en référence sur la page de Culture Monde. Un grand merci en tout cas à tous. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Une série d'articles paraissent dans la revue Foreign Affairs sur le bilan de la politique étrangère de Trump. Vous citiez hier celui de Michael Beckley. Selon lui, le tournant impulsé par Trump ne sera pas sensiblement modifié par son éventuel successeur parce que l'état du monde va inciter les États-Unis à éviter les engagements internationaux.
Oui, explique-t-il. Primo, la population mondiale hors l'Afrique vieillit. L'Europe sera bientôt un continent très âgé, mais tel sera aussi le cas de la Chine, du Japon, de la Russie. Tous ces pays devront consacrer aux pensions de retraite et à la santé des pourcentages de plus en plus importants d'un PIB qui va stagner, du fait même du rétrécissement de leur population en âge de travailler. Parmi les pays développés, seuls les États-Unis, le Canada et l'Australie resteront des nations jeunes au milieu du XXIe siècle, facteur de dynamisme pour elles. La Russie et la Chine vont bien vite se retrouver devant des choix drastiques, acheter des fusils pour leurs militaires, ou des cannes pour leur population de plus en plus âgée. Et l'histoire suggère que ce sont ces dernières qui recevront la priorité pour prévenir des troubles sociaux, résume Michael Beckley. Les budgets militaires de la Russie et de la Chine vont être grevés par le poids des pensions de retraite de leurs soldats. Déjà, 46% de celui de la Russie et 31% de celui de la Chine sont consacrés aux seules dépenses de personnel, contre 25% seulement de celui des États-Unis. Cela aussi favorisera donc les Américains. Ceux-ci ont pris une sérieuse avance dans un domaine décisif pour leur autonomie. Les smart machines, les machines intelligentes, elles combinent les capacités de calcul des ordinateurs avec la puissance physique des robots ainsi que la dextérité et l'intuition des humains grâce à l'intelligence artificielle. Déjà, beaucoup d'entreprises américaines qui s'étaient délocalisées pour profiter des réservoirs de main-d'œuvre asiatique sont en train de revenir en Amérique. Les États-Unis dépendent de moins en moins des marchés extérieurs et des investissements étrangers. Ils ont tout ce qu'il faut sur place, les produits alimentaires et l'autonomie énergétique grâce au nucléaire, au gaz et au pétrole de schiste.
Et Brice, cette avance technologique aurait évidemment des répercussions sur le terrain militaire.
Oui, déjà, leurs drones et leurs missiles hypersoniques permettraient aux États-Unis d'intervenir dans des conflits lointains sans exposer leur personnel. Ces drones furtifs et missiles de croisière, relativement bon marché en comparaison avec les avions de combat actuels, suffiraient à dissuader les adversaires de Washington de se lancer dans de coûteuses opérations contre Taïwan dans le cas chinois, contre les pays baltes pour la Russie. Quant à l'ordre libéral international, il ne renaîtra pas de sitôt. Il était lié à un climat de confiance planétaire et à des revenus en augmentation constante. Le poids de l'endettement public, accumulé durant les périodes pourtant plus fastes, pèsera lourdement sur les revenus. La demande de protection l'emportera de plus en plus sur le désir d'ouverture. L'affaiblissement des alliés des États-Unis, Europe et Japon n'incitera pas Washington à s'engager vigoureusement à leur côté. Alors donc vous avez d'une part des alliés délabrés et peu fiables, de l'autre une opinion publique américaine qui fera pression pour que ces gouvernements se recentrent sur la défense de leurs intérêts. Les États-Unis pourraient bien se comporter moins en leader d'une grande coalition et davantage en superpuissance voyou, écrit Michael Beckley. Un colosse économique et militaire ne respectant pas de règles morales, ni vraiment isolationniste, ni vraiment internationaliste, mais agressif, lourdement armé et ne poursuivant que ses propres intérêts. Fin de citation. En recourant en permanence et face au monde entier, alliés compris, à tout un arsenal coercitif pour obtenir le meilleur deal possible. Depuis les taxes douanières à l'entrée des marchandises jusqu'aux frappes de drones en passant par les sanctions financières, les restrictions de visa ou le cyberespionnage. Si tel est bien le cas, Trump n'aura donc pas été une parenthèse dans l'histoire américaine mais au contraire une sorte de précurseur. En accordant la priorité au Pentagone au détriment du département d'État, il a fait subir une inflexion doctrinale mal perçue à la stratégie militaire américaine elle-même. À mesure qu'il réduisait la présence des troupes à l'extérieur de manière permanente, il renforçait des forces d'intervention rapides, capables d'aller frapper un adversaire lointain et de revenir aussitôt leur mission accomplie. Telle que cette diplomatie nouvelle est en train de s'esquisser, on peut imaginer trois cercles d'alliance, toujours selon Beckley. Au sein du premier, des pays qui sont déjà intégrés de fait au système militaire américain. Ils comportent l'Australie, le Canada, le Japon et la Grande-Bretagne. Un deuxième cercle avec les pays baltes, les monarchies du Golfe et Taïwan continuerait, lui, à être armé par les États-Unis, mais sans bénéficier d'une garantie de sécurité américaine. Enfin, avec les pays membres de l'Alliance Atlantique ou la Corée du Sud, ils ne seraient plus considérés comme de véritables alliés, mais comme des pays avec lesquels on doit négocier un à un des accords concernant un certain degré de protection payé et des accords commerciaux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, dans un très court instant. On retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.